Bonjour à tous et bienvenue sur Rotrou en air, l'émission mensuelle du club radio du lycée Rotrou. Le 1er décembre 2021, c'est la journée de lutte contre le sida et la rédaction de Rotrou en air a voulu marquer l'événement en faisant de cette émission une édition spéciale consacrée à ce virus qui tue encore trop de personnes dans le monde. Pour commencer, Charles nous fera un tour d'horizon sur le VIH, puis nous pourrons entendre une interview de Médecins Sans Frontières avec Caroline, et puis il sera temps de conclure avec la fameuse chronique D comme Dimitri, qui lui nous parlera des éventuels vaccins. Rotrou en air numéro 2, c'est parti. On va commencer par Charles. Bonjour Charles.
Bonjour Cédric.
Tu nous as préparé un petit préambule sur l'historique du VIH. On t'écoute.
Exactement. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors en 2021, ça marque les 40 ans de la publication dans le journal américain Morbidity and Mortality Weekly Report, le cas de 5 patients atteints de troubles du système immunitaire très affaiblis. Ce nombre assez important pour faire l'objet d'une note n'est pourtant, et on le verra trop tôt, que la pointe du sommet d'un iceberg d'une eau sans fond. L'état des malades, terreau de maladies opportunistes, est appelé dès 1982 le syndrome d'immunodépression acquise qu'on connaît aujourd'hui par le sida. En quelques années, de très nombreux cas apparaissent partout dans le monde, l'épidémie est mondiale. Les pays dits développés découvrent un mal inconnu et pourtant déjà bien installé en Afrique. La communauté homosexuelle masculine, déjà surveillée pour les infections sexuellement transmissibles survenues avec la libération sexuelle des années 70, est surreprésentée. Ce nouveau fléau les stigmatise une nouvelle fois, il est surnommé le cancer gay. La France et les États-Unis se lancent dans une recherche aux allures de course effrénée. Les nouveaux cas touchant des hémophiles dirigent rapidement les chercheurs sur la piste d'une contamination par le sang. En 1983, une équipe de l'Institut Pasteur dirigée par Françoise Barré-Sinoussi et Luc Montagnier découvre un virus qui s'attaque aux cellules du système immunitaire, les lymphocytes T, le rendant inopérant. Il sera dénommé virus d'immunodépression humaine, connu sous le nom de VIH. La maladie qui en découle se développe en trois phases. La primo-infection, avec parfois des symptômes aux allures de grippe. La phase asymptomatique où, après une période de latence, le virus commence à se développer lentement, combattu par le système immunitaire encore en place. Cette phase dure en moyenne 7 ans. Après quoi, des symptômes peuvent apparaître comme la perte de poids, de la fièvre et de la toux. Vient alors la phase d'immunodépression. Le système immunitaire est épuisé, le virus se propage de plus belle. Le sida est en place, les maladies opportunistes, bactériennes ou fongiques, normalement bénignes, peuvent se développer sans résistance. La porte est également ouverte pour certains types de cancers. Les voies d'infection sont rapidement cernées. Rapports sexuels non protégés, usage de seringues infectées, transfusion de sang contaminé et grossesse et allaitement. Fin des années 80, les premiers traitements émergent comme l'AZT qui permettra de diminuer drastiquement la transmission mère-enfant dans les dernières semaines de grossesse. Mais le virus mute trop rapidement et s'adapte à la médicamentation. L'avancée majeure vient du milieu des années 90 avec l'arrivée des bi, puis trithérapies. Au prix d'un suivi à vie, les malades détectés suffisamment tôt voient leur espérance de vie égaler celle des séronégatifs, avec des risques de transmission du virus proches de zéro. Malheureusement, cette détection est, dans un quart des cas, trop tardive. La pandémie de Covid-19 n'ayant pas arrangé les choses, une forte diminution des sérologies a été observée en 2020 par rapport aux années précédentes. La recherche avance, les traitements s'adaptent aux mutations du virus et sont simplifiés. Et si la fin de la quête du Graal n'est pas pour demain, des candidats à vaccins existent, comme nous le présentera dans un instant Dimitri dans sa chronique D. La médecine passe également par la prévention avec la PrEP, un préservatif chimique destiné aux personnes à risque qui diminue de 99% les risques d'infection. Dans ce décorum, pointons la sous-représentation des femmes dans les phases d'expérimentation médicale et les utilisateurs de PrEP, même si grâce au travail de multiples associations, la tendance va dans le sens d'une inclusion plus paritaire. En 2020, rien qu'en France, le sida, c'est 173 000 personnes infectées avec 6 200 nouveaux cas pour cette seule année. 56% par rapport hétérosexuel, 40% par rapport homosexuel masculin, 2% par l'usage de seringues contaminées et enfin 2% par d'autres biais. En 2021, on ne guérit pas du virus du sida. On doit vivre avec. Alors, avant de passer la main, je ne saurais trop répéter un slogan qui prend malheureusement des airs de litanie, mais printemps, été, automne comme hiver, sortez couverts. Et quand les relations prennent des airs de long voyage, mon nouvel adage, c'est « penser au dépistage ».
Eh bien, merci beaucoup Charles pour ce topo qui nous a permis de faire le point et de réactualiser nos connaissances sur le VIH, mais aussi nos préjugés. Merci beaucoup. Passons maintenant à l'interview de la semaine qu'on doit à Caroline, qui a réalisé une interview avec Elisabeth Sumilin de Médecins Sans Frontières. Bonjour Caroline.
Bonjour Cédric, bonjour à tous.
Alors, il me semble que tu as orienté ton interview plutôt du point de vue des pays en voie de développement.
En effet, la question des traitements dans les pays en voie de développement est délicate. Pour répondre à cette question, nous avons contacté et interrogé le docteur Elisabeth Sumilin, médecin généraliste et spécialiste VIH à Médecins Sans Frontières. Bonjour madame, à l'échelle mondiale, comment évolue le VIH ?
En ce moment, l'estimation de l'homicida, c'est de 38 millions de personnes infectées et de 25 millions de personnes sous traitement antirétroviral. Ces dernières années, depuis 2010, on a noté une diminution des nouvelles infections qui ont baissé de 23%. C'est-à-dire qu'elles sont passées de 2,1 millions à 1,7 millions. Et c'est sans doute la stratégie du traitement comme prévention. C'est-à-dire que quand on est sous antirétroviraux et que la charge virale, le nombre de virus dans le sang est indétectable par les méthodes modernes, ça ne veut pas dire que le virus a disparu, mais qu'il est en très faible quantité, eh bien, la personne infectée ne transmet pas le virus à son partenaire ou à ses partenaires. Donc, on pense que l'accélération de la mise sous traitement, en fait, des patients infectés participe à la baisse des nouveaux cas.
Et dans les pays en voie de développement, l'accès aux soins pour le VIH est-il simple ?
Il s'est beaucoup simplifié. Il s'est beaucoup simplifié et il s'est modernisé. On avait heureusement un test diagnostique qui était facile à faire, qui était un test rapide, bout du doigt, très facile à faire, donc le diagnostic était facile. Mais au niveau de la mise sous traitement, la première barrière a été le prix inabordable, 15 000 euros, voire plus, pour un an de traitement. Donc il a fallu d'abord lutter fortement pour faire baisser les prix. Ils sont en ce moment à environ 100 euros par patient et par an pour la première ligne de traitement. On était un peu inquiète parce que les pays pauvres n'étaient pas habitués à avoir des traitements quotidiens pour des maladies. La plus longue maladie, qu'ils connaissaient bien, c'était la tuberculose et c'est 6 mois de traitement. Tandis que là, c'est vraiment un traitement à vie. Mais en les entourant bien, on a cette profession qui s'appelle les conseillers thérapeutiques, en leur expliquant bien, en fait, on s'est rendu compte qu'ils étaient tout à fait aptes à prendre un traitement à vie. Pas tous, parce qu'il y a quand même beaucoup de patients qui sont en grande difficulté matérielle, mais la plupart prennent très bien leur traitement. On n'avait pas le choix. Au lieu d'attendre que ce soit des docteurs qui prescrivent et suivent le patient, on a très vite travaillé avec des infirmières, qui étaient en gros les seules personnes qui étaient présentes dans les centres de santé, quoi, périphériques, en zone rurale. Donc on n'avait pas le choix et ça a très bien marché aussi.
Et les soins proposés, les traitements sont-ils les mêmes que dans un pays développé ?
Les traitements, les antirétroviraux, les drogues, oui. Il y a moins de choix, mais en ce moment, la première ligne est une ligne qu'on prescrit très couramment dans le Nord. Oui, la plupart des molécules, sauf les plus récentes, sont disponibles dans le Sud et à un prix abordable, puisque la plupart de ces molécules sont fabriquées en Inde par des génériqueurs. Donc, ils les vendent en faisant simplement un tout petit bénéfice. Ce qui nous a posé problème, c'est la surveillance de l'efficacité du traitement. C'est-à-dire qu'on la mesure par la charge virale dans le sang. Ça nécessite en fait des techniques de laboratoire assez sophistiquées. C'est de la biologie moléculaire. Ça a été long à se mettre en route. Donc, on ne pouvait pas surveiller correctement nos patients de la même manière qu'en France, par exemple. Mais ça aussi, ça a avancé avec le temps, avec des plaidoyers. Et maintenant, la plupart des pays ont des moyens de mesurer la charge virale, mais trop peu disponibles en quantité. Ils ont la technique, ils peuvent la faire, mais il n'y en a pas assez encore. Dernièrement encore, des chercheurs ont découvert des moyens de mesurer cette charge virale dans le sang avec des techniques beaucoup plus simples, proches du patient. Ce n'est pas un test rapide, rapide, mais c'est un test presque rapide qui peut durer de 2 ou 3 heures simplement et qui peut se faire proche de là où habite le patient. Donc ça a beaucoup transformé la surveillance parce que c'était très dur d'imaginer si le patient était sous un traitement efficace ou s'il avait des problèmes de prise, c'était difficile. Et donc, il manquait des prises de médicaments. Et donc, le risque, c'était qu'il devienne résistant aux molécules qu'on lui donnait. Et ça, c'est très difficile en discutant avec le patient de le savoir, en fait. C'est la charge virale qui nous dit si elle est indétectable, ça va, c'est que tout va bien. Et ça facilite en plus la simplification du traitement puisque on peut lui donner, par exemple, rendez-vous dans 6 mois, simplement. Puisque de toute façon, il va bien, il prend bien ses médicaments, ben, on n'a pas besoin de le voir très souvent. Un peu comme en France aussi, les gens qui ont une charge virale indétectable, ils sont vus tous les 6 mois en consultation.
Et quelle est la qualité de vie d'une personne atteinte du VIH dans un pays pauvre?
Sa qualité de vie n'a rien à faire avec le VIH, sauf il y a encore beaucoup de stigmatisation dans le monde autour de la séropositivité. Je ne saurais même pas dire si ça a baissé au fil des années. Sans doute un petit peu. Mais pas beaucoup. C'est encore des personnes qui sont quand même stigmatisées comme ayant eu un comportement louche. Mais sinon, non. Une fois qu'ils prennent bien leur traitement, ils sont exactement dans la même santé que la population séronégative. Et donc, leur difficulté, c'est une difficulté de tout à chacun dans un pays pauvre.
Merci beaucoup, docteur Similin. De nos jours, bien que les personnes séropositives puissent vivre comme des séronégatifs grâce au traitement, il ne faut pas oublier l'importance des dons. En effet, ces traitements sont très coûteux et sont pour la vie. Ils ne sont pas temporaires comme pourrait l'être un traitement contre la grippe. Imaginez l'impact de ces coûts pour une personne ayant peu de moyens sans les dons. Elle ne pourrait pas vivre correctement et encore moins bien qu'avant les traitements. Je sais que vous l'entendez partout, mais un simple don peut sauver une vie.
Merci beaucoup Caroline pour cette interview de grande qualité. Et c'est maintenant l'instant de la chronique D avec Dimitri qui va aujourd'hui nous expliquer le principe des vaccins ARN messagers et comment la pandémie va peut-être nous permettre de faire des avancées concernant le virus du sida.
Je tiens à préciser que le sida est une maladie grave qui fait des centaines de milliers de morts chaque année à travers la planète et qui est vécue comme une tragédie. Toutefois, j'aimerais y apporter une touche de légèreté, car tout espoir n'est pas perdu, comme le dit le proverbe, bien évidemment. Une quinte de toux, qu'elle soit grasse ou sèche, le nez bouché, ou qui coule sans cesse, un mal de tête ou une grosse fièvre. Tout le monde a déjà eu affaire à ces symptômes dans la vie. C'est dû à un rhume, une grippe, ou d'autres maladies banales sans réel danger, comme les maladies de l'hiver. Les responsables dans cela? Les bactéries, les virus. Il y a aussi d'autres agents pathogènes comme les parasites ou encore les champignons. Pour pallier à cela, on a les antibiotiques et les médicaments, mais il est longtemps recommandé de se faire vacciner contre les maladies que l'on peut rencontrer dans la vie, comme la varicelle, le tétanos, les oreillons à rubéole et d'autres pathologies bien sympathiques. Quitte à parler de virus, parlons aujourd'hui de VIH. C'est une maladie qui s'attaque en particulier aux globules blancs, mais surtout aux lymphocytes T4, les chefs d'état-major du système immunitaire, si on fait la comparaison avec l'armée. Et sans ces lymphocytes, les autres globules blancs ne savent plus quoi faire. Et sans système immunitaire, ces journées portes ouvertes pour les autres maladies. On peut toujours essayer de développer un vaccin contre ce virus, mais il a tendance à muter pour échapper au système immunitaire et à le prendre de dos. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un rétrovirus. Ça, c'est dans le cas des vaccins qui utilisent des agents affaiblis ou des fragments du virus. C'est beaucoup plus compliqué que ça et ces vaccins présentent une efficacité relativement médiocre. Et d'ailleurs, petite anecdote, il existe des personnes qui sont totalement immunisées contre le sida, naturellement, sans passer par d'éventuels traitements ou vaccins. Mais comment est-ce possible? C'est à cause d'une mutation génétique qui rend inexistants les récepteurs CCR5 qui sont la porte d'entrée qui permettent au VIH d'infecter ses futures victimes. En effet, on a beau avoir la clé d'une porte, comme c'est le cas avec le Covid et la protéine Spike, il faut maintenant trouver une porte, comme ces cellules et le récepteur CCR5. Et sans porte d'entrée, la clé ne sert à rien, bien évidemment. Heureusement, en rebondissant sur ce que disait Charles concernant les vaccins, avec la pandémie que nous traversons, un nouveau type de vaccin a fait beaucoup parler de lui. Le vaccin à ARN messager. Première question, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il s'agit d'un extrait de l'ARN du virus qui permet à la cellule de faire une copie d'une protéine. C'est en quelque sorte le plan d'une fabrication d'une protéine. Comment c'est fait ? Je vais vous expliquer la recette. D'abord, prenez votre virus, récupérez son ARN, puis sélectionnez la séquence qui vous intéresse à l'aide de vos ciseaux moléculaires, mieux connus sous le nom de CRISPR-Cas9. Dans ce cas, la séquence qui nous intéresse est celle qui permet de recopier le virus. Ajoutez-y des lipides, des minéraux, du sucre, en plus de votre ARN messager, et voilà le travail. Pas de puce 5G ou quoi que ce soit qui nous rendrait magnétiques, et c'est tant mieux. Et d'ailleurs, comment ça marche ? Après avoir injecté le vaccin dans un volontaire, l'ARN messager est reçu par les cellules qui vont l'intégrer dans le cytoplasme. Ce plan de fabrication va être transféré aux ribosomes, les usines de la cellule, qui vont eux se charger de faire des copies de cette protéine qui sera libérée dans le sang. Cette séquence est sélectionnée de telle sorte qu'il n'interfère pas avec notre ADN, car vu que notre ADN est localisé dans le noyau, l'ARN messager n'a pas le badge qui lui permet d'y accéder, et les usines cellulaires, que sont les ribosomes, sont en dehors du noyau. Donc, aucune chance de subir une modification génétique, cela n'étant possible que dans les films de science-fiction. Quels sont les avantages ? Contrairement à un vaccin traditionnel, utilisant des cultures de virus, il est possible de synthétiser les ARN messagers en laboratoire. En effet, cela simplifie davantage le processus de fabrication et par conséquent le prix. D'ailleurs, en fonction des variants, on peut traficoter entre guillemets cet ARN messager de façon à ce qu'il s'adapte au virus. De plus, ça permet aux cellules de synthétiser une protéine contre laquelle les globules blancs font lutter, ce qui offre une bonne réponse immunitaire. Concernant les inconvénients, l'ARN messager est fragile. Il se dégrade facilement, raison pour laquelle il est conservé à très basse température. Certains auront compris la référence à Mission Impossible. Je vais vous faire un petit exemple pour ceux qui n'auraient pas la ref. Cet ARN messager s'autodétruira d'ici quelques secondes. Même si on a peu de recul et de données concernant sa sécurité et son efficacité, les chiffres restent tout de même très positifs. Dans le cas du vaccin contre le Covid-19, on annonce des efficacités d'au moins 90%. Autrement dit, c'est une excellente nouvelle, même si c'est un peu remis en question avec le nouveau variant Omicron. Si on réussit un jour à développer un vaccin contre le sida, qui fait quand même des ravages, peut-être qu'on éradiquera cette maladie. Pour conclure, même si on n'a pas encore de vaccin contre le VIH, la recherche des vaccins contre le Covid-19 nous aura permis d'envisager un potentiel nouveau vaccin dans les prochaines années à venir.
Eh bien, merci Dimitri, merci Caroline, merci Charles. Je pense qu'on était vraiment sur une émission qui était intéressante. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, faites attention à vous, protégez-vous et rendez-vous le mois prochain.